Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur la chaîne Tech & Co, sur l'univers Tech & Co. Que vous soyez sur la chaîne disponible sur les box Orange, SFR, Bouygues ou Free, que vous soyez sur la page YouTube ou que vous nous regardiez sur le site de Tech & Co, merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous pour vos 26 minutes d'actu tech hebdomadaire avec au sommaire pour ce nouveau numéro de Tech Hebdo. Eh bien, un petit baladeur qui va peut-être changer la vie des parents, mais surtout des enfants, à qui on va pouvoir raconter de belles histoires, tout ça en étant interactif. Ça s'appelle l'UNI. On découvre ça dans un instant. On s'intéressera aussi aux personnes en situation de handicap avec ces lunettes étonnantes développées par une start-up qui s'appelle Yes. Des lunettes connectées pour parler avec les yeux. Et puis on terminera, puisque les vacances approchent, ça y est. Tiens, comment notre smartphone peut nous aider justement à bien préparer nos vacances. Eva Serraïol nous a sélectionné quelques petites applications comme il faut. Voilà, ça vous donne envie de rester avec nous. C'est le but du jeu. Merci d'être là. Bienvenue dans ce nouveau Tech Hebdo. Et puis tiens, j'oubliais, vous pouvez aussi nous retrouver sur l'appli RMC BFM Play qui, vous le savez, est là pour réunir tous les contenus du groupe Altice Média, que ce soit les contenus d'RMC, RMC Découverte, BFM TV, BFM Business, mais aussi toute la plateforme Tech & Co. En tout cas, merci d'être là. Tout de suite, on commence par l'actu de cette semaine. Et nous nous connectons tout de suite avec la rédaction de Tech & Co. Et Mélinda Davansoulas est avec nous. Salut Mélinda.
Bonjour François.
Ravi de te retrouver, ma chère Mélinda, pour s'intéresser un peu à l'actu de cette semaine. Et on va commencer par un produit qui me semble être l'un des coups de cœur, de tes coups de cœur. C'est un petit baladeur qui a l'air bien sympathique pour les enfants.
Écoute, c'est tout nouveau, tout beau. Je te l'amène. Il vient d'être annoncé. Il a été annoncé aujourd'hui même.
Exclusivité.
Et voilà. Et tu peux le voir. Ça s'appelle Flamme. C'est un baladeur interactif. Alors, on le doit à une start-up qui s'appelle l'UNI. Tu dois te souvenir, ils avaient conçu la Fabrique à Histoire, cette petite boîte sans écran qui permettait aux enfants d'écouter des histoires. Eh bien, on prend la même idée, mais on passe à l'étage au-dessus. D'accord. L'UNI, la Fabrique à Histoire, c'était pour les tout-petits. Là, on est pour les 7-11 ans. Alors, ça a des airs d'iPod.
Vous n'en avez pas parlé au CES, tiens, de ça.
Non, mais c'est dans la même mouvance que cette tablette.
C'est dans la même mouvance.
C'est dans cette même mouvance de faire de la tech sans faire de la tech.
Mais oui.
Voilà, c'est exactement, c'est un produit tech, mais qui n'a pas, alors on va dire pour les enfants, les travers, c'est-à-dire l'écran permanent, des choses comme ça. Eux, ce qu'ils veulent surtout, c'est garder l'interactivité pour l'enfant, mais pas d'écran. Ce n'est pas un écran tactile qu'il y a dessus. Par exemple, on peut le toucher pour choisir, sélectionner ses histoires, ses menus, mais il y a ces boutons physiques qui doivent perdurer. Maëlle, la créatrice, elle veut vraiment garder ces boutons pour que l'enfant continue d'avoir ses réflexes manuels pour avoir des options.
Et puis, on n'est pas tout le temps donc en train de manipuler un écran.
Exactement.
Et de regarder un écran.
Il n'y a pas d'Internet dessus. Le seul Wi-Fi, il est interne, mais il permet de se connecter au smartphone ou à la tablette de ses parents pour charger des histoires, faire des mises à jour, télécharger à terme de la musique, parce qu'elle espère en faire un baladeur interactif, mais aussi pour la musique.
Pas mal.
Il y a deux boutons, lecture et pause, tu vois, c'est quand même ultra minimaliste. C'est lancé aujourd'hui sur la plateforme Ulule. C'est un projet en crowdfunding. Ce sera véritablement disponible en magasin sur la fin de l'année, juste avant Noël. Il y aura 10 livres audio dans la bibliothèque. Donc, on les charge et les livres sont interactifs. L'enfant fait des choix dedans. Donc, on veut vraiment qu'il réfléchisse en permanence.
Il écoute l'histoire et on lui propose plusieurs choix en fait, pour poursuivre l'histoire.
Exactement, des cheminements dans l'histoire. Mmh. Chaque livre coûtera environ 15 euros, ce qui est assez classique sur ce genre de format pour des livres numériques.
Ce n'est pas donné. Hein.
Ce n'est pas donné, mais c'est souvent le prix parce qu'en fait, c'est une bibliothèque qui est intégralement conçue en interne et les ouvrages sont conçus en interne. Ils ont quand même deux partenariats à noter avec les créateurs du jeu Loup-Garou. Ce fameux jeu qui plaît beaucoup, eh ben, il y aura des histoires autour de loups-garous, autour de donjons et dragons, pour aller dans la mouvance des jeux de rôle et les initier donc, dès 7 ans. C'est vraiment un objet en fait, qui veut sécuriser les parents. Il n'y a pas d'écran. Il y a même une coque en plastique supplémentaire dessus pour être sûr qu'ils ne cherchent pas à aller sur le tactile. Et puis pour les enfants, voilà, c'est fun, il y a de la couleur. On rigolait en disant que c'était une Game Boy Color. Il y a vraiment, vraiment cette idée-là.
C'est un mix entre Game Boy Color et les premiers AirPods.
Mais oui, non mais, c'est l'iPod Touch vidéo, tu sais, qu'on avait. Il y a ça. Mais il y a un côté très 80s, un peu comme la Fabrique à Histoire avait ce côté rétro.
On a le prix déjà ou
alors,
pas?
En magasin, à la fin de l'année, ce sera 99 euros.
D'accord.
Avec un livre. Jusqu'au 23 juin, il y a une pré-campagne sur Ulule et il tombe à 69 euros, ce qui me semble être un prix un petit peu plus raisonnable. pour ça. Donc voilà, c'était mon petit produit que je voulais te montrer, de la tech sans tech.
Voilà, et puis une initiative française aussi.
Et oui, il faut le saluer aussi.
Dans l'actu, quelque chose de moins sympathique, les amis. Tiens, on vit dans un monde avec évidemment des smartphones Android, des télés Android, des modules qui vous permettent de vous connecter à la télé sous Android. Et il faut savoir que ce milieu-là n'est pas toujours très, très sain, visiblement.
Eh bien non, on le sait, hein, tout ce qui est virus, malware aujourd'hui, il y a toujours des petits malins pour y aller. Et là, c'est un rapport de Trend Micro, une entreprise de cybersécurité, qui a expliqué qu'il y a actuellement des millions de smartphones Android qui sont à la portée des pirates informatiques et qui sont même déjà piratés. 9 millions de smartphones Android sont vendus avec un logiciel malveillant préinstallé.
Oh là là.
C'est-à-dire que là, vous n'avez rien fait, vous n'êtes pas allé bidouiller sur Internet, quoi que ce soit.
Oui, il est déjà quand on l'allume, en fait.
Voilà. Alors, ils ne donnent pas les noms, mais il y a quand même une cinquantaine de marques qui sont impactées, c'est pas rien. Alors, la France, on est assez, je dirais pas tranquille, mais sécurisé. Les pays principalement touchés, les États-Unis, le Mexique, l'Indonésie, la Thaïlande et la Russie, 55% des smartphones vendus en Asie seraient concernés. Donc, quand vous faites venir un smartphone d'Asie pour le payer moins cher, pensez-y aussi, 3,8% en Europe seulement de smartphones impactés.
Mais c'est fou, qui installe en fait ces malwares ? Parce que on peut imaginer qu'un téléphone qui est tout neuf, c'est le constructeur qui installe les derniers logiciels.
C'est un peu le point un peu bizarre. Alors, ce logiciel, il s'appelle Guerilla. Il permet d'ouvrir ce qu'on appelle les portes dérobées dans le smartphone. Donc, il faut déjà quand même le repérer. Il va prendre le contrôle du téléphone. Il va aller envoyer des messages à votre place, prendre vos données, lire. Il va sur Facebook, il va sur WhatsApp. Et il répond pour vous.
Ça, c'est génial.
C'est sympa comme secrétaire, mais il faut quand même le surveiller.
Mais encore faut-il qu'on soit au courant.
Voilà.
Parce qu'invisiblement,
mais
on ne l'est
pas. Mais sa spécificité, et c'est là où ça peut être un peu plus dangereux, c'est qu'il va essayer d'intercepter, vous savez, ces SMS qu'on reçoit en double authentification.
Ah.
Avec des codes à usage unique pour aller se connecter souvent à des plateformes d'achat.
Mmh.
Et
des banques.
Voilà, les banques. Et il essaye d'intercepter ça. Donc, il y a les smartphones et il y a les boîtiers télé aussi qui sont concernés. Ça, c'est TechCrunch qui annonce qu'il a repéré deux modèles vendus sur Amazon, donc évitez-les, qui s'appellent Allwinner et Rockchip. Ce sont des boîtiers TV sous Android. Mmh. Eux, ils ont un autre logiciel qui s'appelle Clickbot. Et lui, il est encore plus fort. Il génère des revenus publicitaires à votre insu. C'est-à-dire qu'il va cliquer à votre place discrètement sur des pubs en arrière-plan. Donc non, mais tout ça pour dire que quand on achète un smartphone et qu'on le fait venir de l'étranger, en Europe, on est assez sécurisé sur tous ces points-là. Faites très, très attention à votre smartphone. Et toujours virer les applications qui ne servent à rien,
qui
sont préinstallées.
Bien sûr. Et voilà. On en a beaucoup. Hein. C'est comme les PC aujourd'hui. Vous avez des antivirus. Enfin,
il faut toujours commencer par là. On désinstalle ce qui est inutile.
Bizarre qui s'installe. Dans l'actualité aussi, tiens, c'est une actu qui est tombée aujourd'hui, Mélinda. Mm. C'est Google qui déploie énormément de services, tous plus utiles les uns que les autres. Et là, c'est un service alerte inondation.
Voilà, ils avaient déjà fait ça avec les alertes chaleur, pour prévenir justement, anticiper grâce à leur intelligence artificielle les risques de vagues de chaleur. Bon, alors c'était des conseils, bien vous hydrater, des choses comme ça, mais ça donnait les zones.
Mm-hmm.
Là, ils font la même chose désormais avec une alerte inondation. La plateforme, elle s'appelle Flood Hub. Et en fait, elle va étudier, prendre plein de données, les cartes hydrauliques pour voir dans les régions où c'est un peu plus suspect, il y a des risques d'inondation. Et elle va, son IA va tout compenser. Mm-hmm. Et 7 jours avant, elle va être capable de vous dire, attention, il va y avoir dans telle zone, à peu près à telle date, un risque d'inondation. C'est vraiment de la prévention. Ça vient d'être étendu à l'Europe, enfin 80 pays, l'Europe, dont la France. La carte est déjà active. Vous pouvez aller sur la plateforme Flood Hub et vous allez voir dans votre région si c'est jaune ou rouge, c'est qu'il y a un risque d'inondation. Ils préviennent. Les informations, elles sont affichées après dans Google Maps et sur Google Search. C'est-à-dire quand votre région est concernée, comme ils vous géolocalisent,
oui, bien sûr.
De l'intérêt de mettre sa géolocalisation parfois.
Et bien sûr. Et on voit que l'intérêt sur Google Maps, bien sûr.
Voilà. Et ben, ça va permettre d'avoir ces informations et donc d'anticiper en fait les risques. On sait que quand il y a une inondation, c'est toute une zone qui est prise par surprise. Mmh. Là, normalement, 7 jours avant, on a moyen de savoir ça quand même bien et de tout prévoir.
Très bien. Alors, c'est rigolo qu'on parle d'inondation alors qu'on est plutôt dans une phase de sécheresse. Quoique, j'étais dans le sud ce week-end, les amis, autant vous dire que la sécheresse, avec tout ce qui est tombé,
elle,
en
est
gros, elle était tout à fait relative. Bon, enfin, là, on referme ma parenthèse personnelle. Pour terminer, tiens, vous savez, Apple a révolutionné le marché des trackers il y a quelques années de cela avec son AirTag. Et à chaque fois qu'on parle d'AirTag aujourd'hui, c'est finalement pour commenter des faits de société, parce que c'est un produit dont l'usage a été tellement détourné, Mélinda, que tous les jours, on a une nouvelle histoire concernant les AirTags.
Alors c'est terrible, parce que cette balise Bluetooth, l'AirTag, c'est fait pour normalement être oublié. Enfin, oublié dans nos têtes, et justement ne pas oublier ni perdre nos affaires, les clés principalement, les
sacs.
Et on n'imagine pas l'imagination des gens, justement, pour détourner l'usage. Alors, on connaît le tracking des personnes, donc vous pouvez être suivi par quelqu'un qui vous l'a glissé dans le sac. Les bagages, on s'en sert normalement pour les bagages, ouais. pour éviter les volets. Là, il y a des parents qui ont trouvé une solution aux États-Unis. Ils le mettent sur leurs enfants, pas pour ne pas les perdre. C'est
ah
pas
bon
le but.
Moi, je pensais que c'était pour ça.
C'est pour mieux les retrouver en permanence. C'est pour les géolocaliser. En fait, il y a des parents, ils ont trouvé des bracelets. Ils mettent le tracker dedans. Ouais. Et comme ça, ils suivent toute la journée leur enfant, s'il va bien à l'école. Alors, c'est pour des tout-petits. Mais surtout, là où je trouve ça un petit peu plus horrible, et pourtant, ils s'en vantent sur TikTok de faire des vidéos là-dessus, c'est qu'ils se servent de la fonction émettre un son pour retrouver le AirTag, ouais. pour signaler à leur enfant que c'est l'heure de rentrer à la maison et que c'est l'heure d'aller manger. Donc, c'est un usage comme un autre. Pour 30 euros, on peut quand même faire mieux
on
que ça.
On dirait un animal de compagnie, en
c'est
fait.
C'est absolument horrible.
Mais c'est pareil.
Non, mais c'est horrible, on est
ouais,
d'accord.
C'est vrai que
tout
c'est pas
ça pour... je veux bien croire qu'on l'accroche au sac de son enfant pour savoir
oui.
où il est. Mais là, de l'exhiber fièrement au poignet en disant comme ça, mon enfant, comme un chien, va revenir parce que c'est ça, je trouve ça assez horrible. Quand même.
Ouais, c'est un peu bizarre.
Mais ça coûte moins cher que les trackers pour enfants. C'est
exactement.
Ça le problème. C'est peut-être
exactement.
Que les trackers pour enfants, enfin les trackers, ce qui permet de suivre son enfant et d'être ouais. rassuré, est bien trop cher.
Oui, parce
par
que là, il n'y a pas de GPS, l'autonomie, elle est immense. Il suffit que le tracker en fait, passe à côté d'un iPhone
voilà.
ou d'un Mac ou d'un iPad pour
voilà.
se géolocaliser. Donc,
la force du AirTag, c'est de s'appuyer sur tout l'existant.
Ouais.
Pour
l'écosystème Apple pour
voilà,
pouvoir borner.
Pour borner en permanence. Donc voilà, c'est horrible. Mais il y a quand même une fonction qui m'a échappé, il n'en parle pas, c'est que le AirTag, s'il n'est pas à côté de l'iPhone, il sonne en permanence.
Mm-hmm.
Donc l'enfant, de toute façon, ça doit sonner en permanence
oui,
avec lui.
C'est vrai, c'est bizarre.
C'est horrible.
Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup, Mélinda, pour cette actu.
Ouais.
Voilà, un peu de tout dans l'actu de cette semaine. Donc, Tech Hebdo, et vous restez avec nous. Tout de suite, nous allons découvrir Wyes. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. En tout cas, on va poser la question à Maxime Loubar qui me rejoint sur ce plateau. Alors, évidemment, ce n'est pas Wyes, c'est Wyse. C'est beaucoup mieux quand on le prononce bien. Et c'est Maxime Loubar qui est avec nous. Bonjour, Maxime.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur donc, de cette start-up qui développe une technologie d'aide à la communication et à l'autonomie pour les personnes en situation de handicap. Voilà, on sait que c'est un marché qui est en pleine expansion. Hein. Mmh. Aider les personnes qui sont en situation de handicap. On le voit, les smartphones aujourd'hui ont plein d'aides, plein de fonctions d'accessibilité qui permettent de faire des petits miracles. Qu'est-ce que vous avez développé chez Wyse? Expliquez-nous.
Alors avec Sarah Mougarbel et Pierre-Jean Covier, nous avons développé donc le projet Wyse, qui est une paire de lunettes connectées qui va permettre, avec les yeux, de pouvoir contrôler des interfaces de numérique. Donc ça peut être un ordinateur, un portable, une tablette, et ça va permettre de retrouver la communication avec les mouvements des yeux.
Donc ça s'adresse à quelqu'un qui ne peut pas agir avec ses mains,
exactement.
Qui n'a que ses yeux pour interagir avec un objet tech, en quelque sorte. Comment ça marche? Expliquez-nous.
Exactement. Mais on peut penser déjà, pour avoir l'image, à Stephen Hawking,
oui.
le célèbre physicien qui a été atteint par la maladie de Charcot. Il y a d'autres pathologies, syndrome d'enfermement, des myopathies, beaucoup de maladies qui amènent à cet état-là, où en fait le corps est totalement paralysé.
Ou parfois des accidents graves.
Exactement, des accidents, des AVC aussi. Mmh. Et l'esprit est enfermé dans le corps de la personne, alors qu'il est encore fonctionnel. Et donc la personne n'a plus aucun moyen de communiquer, sauf que ses yeux, magie, bougent encore parce qu'ils sont reliés directement au cerveau et ce n'est pas les motoneurones qui sont atteints. Et en fait, avec les yeux, on va pouvoir faire certains mouvements qu'on va définir comme des commandes. Par exemple, on va dire le clignement de l'œil droit, ça va être pour sélectionner, à l'instar d'une souris sur un ordinateur. Et donc, quand je vais faire ce mouvement-là, sur mon ordinateur, ça va pouvoir sélectionner. Du coup, je vais pouvoir taper du texte, mais je vais pouvoir aussi aller sur Internet, envoyer un mail, interagir avec des personnes sur les réseaux sociaux. C'est vraiment toutes ces personnes-là qui sont enfermées dans leur propre corps et enfermées chez elles et qui n'ont plus aucune interaction sociale. C'est vraiment l'idée, via la technologie, de leur redonner la capacité de faire corps avec la société.
Et là où vous êtes en train de créer une petite révolution, c'est qu'auparavant, ces gens-là n'avaient avec quoi comme interface, finalement?
Alors, malheureusement, l'interface la plus utilisée
c'est
aujourd'hui...
L'humain.
Alors, c'est exactement, c'est l'humain. C'est un alphabet qu'on imprime sur une feuille et on pointe les lettres. Et donc, il faut un aidant qui pointe les lettres. Et ensuite, on va cligner de l'œil ou faire un mouvement particulier pour la sélectionner.
Terrible.
Donc, il y avait un livre comme ça qui avait été écrit, Le scaphandre et le papillon.
Oui, oui, oui.
Justement, donc, on a cette image-là, ce film. Donc, c'est vraiment des personnes qui n'ont plus du tout aucune autonomie. L'ambition de Wyse, avec notre paire de lunettes connectées, c'est de redonner cette autonomie. Donc aujourd'hui, c'est surtout permettre de communiquer. Ça peut être aussi permettre à une personne d'appeler quelqu'un à l'aide si jamais elle a une problématique, parce que comment vous appelez à l'aide quand vous êtes seul dans votre chambre? Ça peut être aussi, demain, des usages un peu plus poussés. Ça peut être, par exemple, de permettre à la personne de retrouver le chemin vers l'emploi. Parce que si jamais elle peut utiliser un ordinateur, envoyer des mails, etc., avec tout le télétravail aujourd'hui qui se fait, on pourrait même permettre à ces personnes, il ne faut pas oublier que le chômage touche deux fois plus les personnes en situation de handicap que les personnes valides. Donc il y a vraiment beaucoup de potentialités avec ces technologies-là.
Comment ça marche? Comment arrivez-vous à mettre ces capteurs dans les lunettes? Elles détectent quoi, en fait? Les clignements des yeux, l'œil qui bouge, comment ça marche?
Alors, tout à la fois. C'est ça qui est super. C'est que, bon, il y a eu beaucoup d'années de R&D, évidemment, derrière ça. Mais en fait, l'ambition, c'est de détecter tous les mouvements des yeux, que ce soit les yeux ou les muscles autour des yeux. Donc, ça peut être un haussement de la joue, un haussement de sourcil, un clignement, un battement de cils, vraiment toutes ces choses-là. Tout ce qui va être volontaire. Donc, en fait, c'est des capteurs infrarouges qui vont tout détecter. Et ensuite, on va être capable de voir les mouvements que la personne est vraiment capable de maîtriser, qui vont pouvoir être différenciés des battements de cils naturels, des mouvements involontaires. Et ces mouvements que la personne est vraiment capable d'utiliser, c'est ensuite qu'on va les associer selon l'objet connecté. Tel mouvement, ça va faire telle chose, tel mouvement, telle chose, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on peut utiliser tout un tas d'objets connectés. Il y a aussi de la domotique, on peut utiliser de la domotique avec les yeux. C'est vraiment, il y a beaucoup de potentialités.
Donc, ces lunettes qui existent déjà, elles sont fonctionnelles. Il y a des patients qui la testent en ce moment.
Oui. C'est alors, ça a été testé depuis toujours, parce qu'on a vraiment co-conçu cette solution. On fait partie un peu de cette mouvance qui veut mettre les patients et les structures
dans la recherche.
Voilà, exactement, dans le développement du dispositif. Donc, ça a toujours été des navettes par itération comme ça. Et donc, aujourd'hui, elles sont fonctionnelles, elles sont commercialisées. Nous avons là un test grandeur nature, donc avec des patients qui sont chez eux, qui ont acheté notre technologie, qui l'utilisent, et une structure médicale de l'ADAPI, donc qui est une belle association aussi. Donc on les a équipés. Donc là, on travaille avec eux pendant 3 mois pour s'assurer qu'en environnement, disons, normal et en situation réelle, tout fonctionne bien. Et après, ça ira vers une commercialisation plus importante et vers une internationalisation du dispositif.
Techniquement, ça marche comment? C'est-à-dire que les lunettes sont connectées à quoi? Un smartphone qui, après, va piloter un PC? Ou, par exemple, si je pilote un PC, les lunettes se connectent directement en Bluetooth au PC?
Alors voilà, c'est par Bluetooth, c'est très simple. Le but, c'était que ça soit le plus simple possible et que ça soit surtout interopérable avec tout notre environnement déjà existant. On peut l'utiliser avec n'importe quelle marque d'ordinateur, n'importe quelle marque de portable, dès lors où il y a du Bluetooth. Et on a même développé pour des objets connectés qui seraient justement filaires, donc où il y aurait besoin d'un jack, etc. On a développé une extension qui permet aussi de se mettre à ces objets-là. Par exemple, un fauteuil roulant n'a pas forcément le Bluetooth, mais il y a des prises jack qu'on pourrait utiliser pour simuler le petit joystick qu'on utilise. Et donc là, en fait, avec les lunettes, on pourra faire la même chose. On pourra se connecter en jack, en mini jack, et du coup, utiliser avec les yeux le fauteuil roulant. Ça, ce n'est pas encore effectif, mais ça fait partie des ambitions très prochaines.
Alors, évidemment, j'imagine que votre produit suscite beaucoup d'attentes. Il sera disponible quand, en fait?
Alors, c'est un produit d'espoir qui, aujourd'hui, effectivement, est déjà disponible, mais sur un petit panel. Ouais. Donc là, dans les tout prochains mois, on va lancer une nouvelle phase de production, sans doute avec un système de pré-vente, dans l'idée vraiment d'offrir à toutes les personnes qui en ont besoin la possibilité de l'acquérir. Et également, on travaille dès aujourd'hui à la recherche sur les marchés internationaux. Donc, on discute avec des revendeurs de matériel médical pour tenter, parce que la maladie n'ayant pas de frontières, pour tenter de mettre la solution entre les mains d'un maximum de personnes.
Eh bien, voilà, joli projet. Ça s'appelle WISE. Merci beaucoup, Maxime.
Merci pour l'invitation. Merci.
Par le plateau de Tech Hebdo, vous en êtes le cofondateur. Et tout de suite, alors que les jours s'allongent et que les températures augmentent, il est temps d'imaginer à quoi vont ressembler nos prochaines vacances. Et Vasser Ayol a enquêté sur le sujet avec une petite sélection d'applis qu'on découvre tout de suite. Petite sélection donc d'applis spécial été. Et c'est avec Eva Serraiol. Salut, c'est Eva. Ravie de te retrouver.
Bonjour, François.
Eva qui scrute les stores des smartphones pour nous retrouver la substantifique moelle, ma chère Eva. Avec une belle petite sélection d'applis, justement pour préparer ses vacances.
Exactement, l'été approche. Ouais. Donc il est temps peut-être pour ceux qui n'ont pas encore réservé de s'y mettre. Alors on commence avec une appli qui s'appelle Packer et qui est destinée à ceux qui, comme moi, ont fâcheusement tendance à oublier quelque chose quand ils partent en vacances. Donc si vous aussi, vous vous êtes déjà retrouvé à acheter une brosse à dents ou un adaptateur de prise électrique à l'aéroport ou à la gare, c'est votre appli.
À 10 fois le prix, bien sûr.
À 10 fois le prix, évidemment. J'ai 5 brosses à dents désormais.
On paye tout ça le plus fort, hein, bien entendu.
Donc comme vous l'avez un peu compris, c'est une appli qui permet de faire des listes de rappels pour faire ses bagages.
D'accord.
Très pratique. L'étape numéro 1, c'est qu'on ajoute un voyage, on sélectionne la destination et on choisit, et les dates, évidemment, parce que ça calcule ce qu'on prend en fonction de la météo.
Ah bon ?
Ça, c'est vraiment pas mal. Ouais. Et on indique si c'est pour du loisir ou pour du travail. Donc moi, pour l'exemple, j'ai décidé que je partais de demain jusqu'à dimanche au Mexique.
Oui.
Voilà, pourquoi pas.
C'est un bon choix, Eva. Sympa.
C'est pas mal.
Ouais.
Malheureusement, je ne pars pas, mais l'appli m'avait aidé à faire ma valise, tout comme si je partais.
D'accord. Alors, qu'est-ce que l'appli t'a dit ?
On choisit l'hébergement ensuite. Donc, ça peut être, moi, j'ai choisi l'hôtel, mais ça peut être le camping, ça peut être une résidence secondaire, location, chez des amis, de la famille. Donc, il y a pas mal de choix. Étape 3, le mode de transport, avion, bateau, moto, train, voiture, à pied, éventuellement, si on part sur une randonnée. Et enfin, on choisit les activités. Donc là, c'est pareil, il y a vraiment pas mal de choix. Donc il y a les essentiels de base, les vêtements, trousse de toilette. Il y a une catégorie internationale. Il y a la plage, le sport d'hiver, les randonnées, le festival, une catégorie bébé. Je ne vous cite pas tout, mais il y en a pas mal. Et pour la blague, j'ai sélectionné l'activité dîner raffiné. J'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait.
Ça te ressemble tellement. Et donc ?
Et pour finir, on crée le voyage. Alors, il faut quand même regarder une petite publicité pour avoir notre liste finale.
Oui.
Sinon, il faut payer l'appli en format premium.
D'accord.
Évidemment. Donc là, moi, j'ai regardé une pub. Et magie, la to-do list, elle se crée avec les températures, la météo, ce qu'il faut emporter. Et la to-do list, elle va vraiment de tout. Hein. On a le coupe-ongle, la pince à épiler, les chaussettes, la veste légère, parce qu'apparemment, il y a des soirées un petit peu fraîches au Mexique cette semaine.
Finalement, t'as bien fait de ne pas y aller.
Finalement.
Je pense.
Pour l'avion, ils m'ont conseillé de prendre les bouchons d'oreille, le masque de nuit. Et pour le dîner raffiné, il ne faut pas oublier les bijoux, les talons et la robe, apparemment.
Forcément.
Voilà.
Bon, ça s'appelle Packer, donc c'est pas mal du tout.
Et c'est pas mal du tout.
Qu'est-ce que tu as trouvé comme autre appli sympa ?
Alors, avant de partir en vacances, il faut préparer son voyage.
Ouais.
Et en rentrant, il faut organiser ses photos souvenirs. Alors souvent, on se retrouve avec plein de photos, etc. Donc c'est un peu deux parties, l'avant, l'après, qu'il faut organiser. Eh bien, Polar Steps, elle permet de faire les deux. Ça, je trouve ça super.
Ça
alors, quand j'ai ouvert l'appli, j'ai autorisé l'accès déjà moi à toutes mes photos.
Mm-hmm.
Et ça m'a créé des albums photos en fonction de ce que j'avais déjà et de mes voyages passés. Donc ça, j'ai trouvé ça top parce que j'avais jamais pris le temps de faire d'album souvenirs. Donc, il n'est jamais trop tard. Ensuite, il y a une partie guide qui est faite par des utilisateurs. C'est beaucoup en anglais, par contre. Donc, si vous n'êtes pas bilingue, mais ça reste compréhensible et c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai choisi de regarder les guides qui concernaient Dublin, en Irlande, parce que c'est une ville que je connais bien. Et à défaut d'y aller, de pouvoir tester vraiment sur place, ça m'a quand même permis de bien comparer. Et j'ai trouvé des classements des meilleurs bars en fonction du goût de la Guinness ou en fonction des concerts. J'ai trouvé des idées de randonnée, des activités culturelles. C'était très complet et j'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé faire quand j'étais allée à Dublin. Donc là-dessus, top. Il y a une partie un peu plus réseau social aussi sur ce site, c'est-à-dire qu'on peut suivre des utilisateurs qui, eux, voyagent régulièrement et postent les guides. Donc s'il y a quelqu'un qu'on apprécie, qui est très aventure, etc., on va le suivre et avoir ses notifications. Et dernier onglet que j'ai beaucoup aimé sur cette appli, c'est les statistiques. Donc ça, c'est très sympa. On voit le nombre de pays qu'on a visités, le nombre de jours qu'on a passé à l'étranger et le pourcentage de la planète qu'on a visité. Voilà, c'est un peu une déception. Pour moi, j'ai fait que 2% de la planète.
Bon, t'as de la marge encore de progression.
J'ai de la marge. J'ai du boulot surtout.
Je suis sûr que la prochaine fois que tu partiras en vacances, tu te serviras de Polar Steps.
Oui.
De Polar Steps. Quoi d'autre aussi ? Parce qu'après, il faut préparer son voyage. Et essayer de payer le meilleur prix possible.
Alors pour ça, j'ai trouvé Voyage Pirates. Ça fonctionne pour ceux qui connaissent un petit peu comme voyage privé, c'est-à-dire que ça nous permet de trouver les meilleurs prix ou d'avoir des bons plans ou une promo à un moment donné sur un voyage, vol, hôtel, etc. Alors à première vue, les prix sont très attractifs, mais ça peut vite monter dès qu'on change un peu les dates. Voilà, donc ça a été le petit malus.
Proposer une date, une semaine qui est à un prix top canon.
Exactement.
Et tu bouges la semaine d'avant ou la semaine d'après, alors là...
Et avec des fois des horaires, par exemple, s'il y a l'avion qui est inclus, des horaires qui ne sont pas forcément avantageux, qui vont nous faire partir le soir, donc on perd une journée.
On repart très tôt le matin.
Exactement. Voilà. Et dès qu'on veut bouger un petit peu ça, les prix, ça remonte. Donc là-dessus, j'étais un petit peu déçue, mais c'est souvent le cas de toutes ces applis qui proposent des réductions. Un autre point négatif pour Voyage Pirate, c'est qu'on ne peut pas réserver directement sur l'appli. Donc, quand on clique pour réserver notre voyage,
ça nous envoie
alors sur leur site, mais sur le site et on sort de l'appli, ce qui n'est quand même pas le plus pratique. En conclusion, quand même, pour cette appli, je passe vite dessus parce que j'étais un petit peu déçue, mais ce n'est pas à jeter. Il y a quand même certains petits bons plans et il ne faut pas hésiter à chercher uniquement, par exemple, pour les hôtels ou pour les vols. Et là, on peut avoir des bons plans si on est flexible sur ces dates.
Voilà.
Est-ce que tu as un chien ou un chat, Eva ?
Moi, j'ai un chat.
Ah ben voilà, donc je comprends mieux maintenant pourquoi tu nous as trouvé Bring Fido.
Exactement. Alors, le nom, il ne dit pas tout, mais c'est une appli qui permet d'amener son chien avec soi en vacances et donc de trouver des endroits qui soient dog-friendly, donc qui acceptent les chiens.
C'est que les chiens.
Et pas cat-friendly, pas encore. D'accord. Pas encore. Pourtant, je rêve d'amener mon chat en laisse, mais toujours pas. Ça
quand
viendra.
Quand on dîner raffiné, ça peut faire très bien.
Exactement.
Ça peut faire très bien, vraiment.
Alors, Bring Fido, quand on l'ouvre, on rentre une destination. Alors, dans mon délire de voyager, sans voyager, j'ai choisi Tokyo. On choisit entre plusieurs catégories, soit les logements, soit les activités, soit les événements, soit les restaurants. Donc, ça permet de faire en fonction de ce qu'on recherche. Et donc, par exemple, pour Tokyo, j'ai trouvé une liste de tous les parcs à chiens de la ville, avec des petites activités, des restaurants qui acceptent les chiens. Le bémol de cette appli, même si je trouve que l'idée est fabuleuse et qu'il faudrait peut-être la développer un petit peu plus, c'est que j'ai l'impression qu'il compte beaucoup sur les utilisateurs, un peu comme pour Polar Steps, pour créer...
Donc c'est communautaire, en fait.
Exactement. Et je pense qu'il n'y a pas encore une grosse communauté, mais ça gagnerait peut-être à être connu pour les personnes qui ne veulent pas laisser leur petit compagnon à la maison pendant les vacances.
Voilà, ça s'appelle Bring Fido. Merci beaucoup, Eva. C'est cool, tout ça. Ça donne envie de partir en vacances. Et puis, la prochaine fois, tu nous donneras une petite sélection d'appli à utiliser pendant.
Exactement.
Parce que maintenant, on n'a plus aucun reproche à avoir. On est prêt.
On est prêt à partir. On réserve tout. Et la prochaine fois, je vous dis quoi utiliser pendant les vacances.
Avec plaisir, Eva. Merci en tout cas. Et c'est avec Eva que se termine ce Tech Hebdo. Merci de nous avoir suivis encore une fois cette semaine. On se retrouve bien sûr lundi prochain. Tech Hebdo, vos 26 minutes d'actu tech hebdomadaire sur la chaîne Tech & Co. À très, très vite.